Le débat africain. Alain Foucault.
Sept enfants de 9 à 12 ans froidement et sauvagement assassinés dans leur salle de classe, à bout portant, par des bandes armées. Quelques jours après, le 4 novembre, c'est un autre groupe d'hommes armés portant des cagoules qui font irruption dans un établissement privé secondaire d'une autre ville balnéaire et qui, sous la menace de fusils et de machettes, rassemblent enseignants et élèves dans le fond de la classe et les obligent à se déshabiller entièrement avant de prendre des photos et des vidéos qui sont par la suite largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout. Les professeurs, froidement décapités, oui, froidement décapités et la tête exposée dans la ville de Bamenda, des personnalités de premier plan enlevées, des femmes violées, des maisons brûlées, parfois avec ses occupants à l'intérieur. C'est le climat apocalyptique qui règne dans la partie anglophone du Cameroun. Une escalade qui ne bénéficie pas, il faut le reconnaître, d'une couverture proportionnelle à la gravité de la tragédie. Comment en finir avec cette guerre absurde à huis clos qui a déjà fait plus de 3000 victimes et suscité plus de 500 000 déplacés? Comment mettre un terme à ce conflit, au calvaire des femmes et des enfants qui en sont devenus les principales victimes? Qui commet ces massacres barbares dans les régions anglophones? Plus d'un an après, le grand dialogue national qui était censé apporter des réponses à cette crise, quel bilan? Qui sont en réalité ces séparatistes qui ont pris les armes pour combattre le régime de Paul Biya et obtenir leur autonomie? Pourquoi ce silence assourdissant de la communauté internationale? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la guerre dans la zone anglophone du Cameroun, ce qu'on a appelé la guerre du Nozo. Un conflit barbare qui fait beaucoup de victimes mais dont on parle peu. Plusieurs invités au téléphone pour en parler aujourd'hui. D'abord, Monsieur Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais également secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Il est en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise. Bonjour, Monsieur le ministre Grégoire Owona.
Bonjour, Monsieur Foucault. Bonjour à vos panélistes que je vais découvrir.
Second invité de ce plateau, vous allez les découvrir. D'abord, Monsieur Bo Herbert, le porte-parole du mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroons, le Morisque. Bo Herbert, ancien journaliste, est exilé aux États-Unis d'Amérique. Il est en direct de Washington, D.C., la capitale. Bonjour, Monsieur Bo Herbert.
Bonjour, Monsieur Foucault. Et bonjour aux autres panélistes.
Notre troisième invité est Monsieur Eli Smith. Journaliste lui aussi, mais il est également le secrétaire général de la Anglophone General Conference, une initiative interreligieuse rassemblant les leaders anglophones presbytériens, musulmans, avec imams de Boya et de Bamenda, et catholiques, dont le cardinal Toumi, qui a été brièvement enlevé il y a quelques semaines par les sécessionnistes. Cette initiative se propose en fait de donner la parole aux différentes sensibilités anglophones et de regrouper les principales revendications. Monsieur Smith est en direct de Douala, la capitale économique. Bonjour Monsieur Eli Smith.
Bonjour Monsieur Foucault et merci de m'avoir invité.
Docteur Simon Munzu, notre quatrième invité, en direct lui aussi de la capitale américaine, est l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et représentant spécial adjoint du secrétaire général en Côte d'Ivoire. Il est l'un des promoteurs de la Anglophone General Conference, acteur de la société civile. Il défend depuis une trentaine d'années le retour au fédéralisme au Cameroun. Bonjour Docteur Simon Munzu.
Bonjour Monsieur Foucault et bonjour à mes co-panélistes.
Alors j'ai envie de commencer par vous Monsieur Munzu. Comment une crise qui a débuté en 2016 avec un appel au boycott des écoles et les revendications corporatistes et des avocats et des enseignants des régions anglophones est-elle devenue une guerre aussi sanglante qui s'inscrit de plus en plus dans la durée?
Je pense que la réponse est simple, c'est que Le gouvernement camerounais, qui aurait dû, dès le départ, donner satisfaction à ces revendications que vous évoquez, avait préféré la solution de la main forte. Et comme vous le savez, les syndicalistes avaient été arrêtés, j'étais en prison, et le reste on connaît, ce qui a envenimé la situation.
Oui, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui couvait? Est-ce que c'est parti simplement de cela? N'y avait-il pas une, on va dire, des velléités sécessionnistes au départ?
Non, les velléités sécessionnistes, dont vous les appelez, ont toujours existé, M. Foucault. Mm-hmm. Parce que le problème anglophone ne date pas de 2016. Et au sein de la communauté anglophone, il y a toujours eu des sécessionnistes. Mm-hmm. Mais ceux-là ont été mis en minorité par l'action de modérés qui avaient voix au chapitre. Mais l'action du gouvernement a fait que ces modérés-là, je peux dire, y compris moi-même, y compris les candidats soumis que vous avez évoqués, nous avons été mis sous silence. c'était le seul lieu à cette minorité sécessionniste qui a occupé le terrain. Et voilà.
Donc pour vous, vous avez été débordé sur votre aile la plus dure.
Tout à fait.
Alors, Bo Herbert, vous faites partie de ceux qui réclament la sécession, qui réclament la naissance d'un État, l'Ambazonie. Est-ce que réellement vous le pensez? Est-ce une façon de négocier ou vous pensez vraiment qu'on peut créer un État à côté?
Nous ne réclamons pas une sécession. Le Cameroun a organisé la sécession en 1984. Il existait une Nation unie. Le Cameroun a décidé de retourner à son État de 1960. À son indépendance le 1er janvier, il a obtenu sans le Southern Cameroun. Nous avons obtenu notre indépendance le 1er octobre 1961 et la nation, la République du Cameroun, n'existe pas avec le Southern Cameroun. Le problème d'ailleurs ne date pas de 2016. Lorsqu'on arrête à 2016, on refuse de regarder le problème en face. Le problème, c'est 160 ans de domination coloniale, y compris 44 ans au Nigeria, où il y a eu échec total par le Nigeria de dominer le peuple du Southern Cameroun. Et depuis 1961, le Cameroun, avec le soutien de la France, a pris le relais, a essayé de faire la même chose. Et je reconnais avec Dr. Simon Munzo qu'il s'est agi du passage en force par la République du Cameroun, l'insistance de mener des options militaires face à un problème qu'on peut régler de manière politique qui a conduit à la guerre. Et les assassinats, les tueries, c'est de la responsabilité du gouvernement de M. Biya.
Alors, j'ai envie de vous poser la question tout de suite, M. Bo Herbert. Lorsque vous regardez ces enfants qui ont été assassinés dans des salles de classe, lorsque vous voyez des gens qu'on a décapités, est-ce que vous croyez que c'est crédible, cette bagarre, cette lutte pour la sécession? Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est allé beaucoup trop loin et que ce n'est plus simplement une revendication sécessionniste? Est-ce que vous assumez ce genre de violence?
Non, on n'assume pas. Bien sûr que non. Mais c'est le gouvernement de M. Biya, c'est le régime de M. Biya qui perpétraient tous ces actes de violence. Ils l'ont fait en Gabou, ils ont fini par l'avouer. Les enquêtes vont démontrer qu'à Koumba également, il s'agissait du régime. L'Ambazonie ne profite rien à ce crime.
Oui, mais pourquoi ça profiterait au régime en place?
Mais bien sûr, le gouvernement veut diaboliser le mouvement indépendantiste.
Monsieur Grégoire Ouna, lorsque vous entendez ceci, quelle réponse?
La réponse est tout simplement que, d'abord, je crois que nous n'avons pas nié qu'il n'y a pas eu de problème au Cameroun. Ensuite, nous sommes dans une posture de résolution des problèmes. Nous entendons avancer et le grand dialogue national que le président Biya a prescrit ou qui a eu lieu nous a permis déjà d'avancer. Si vous voulez une preuve qui peut vous paraître banale, c'est qu'aujourd'hui, je suis en train d'échanger avec M. Bo Herbert sur une même radio.
Oui, mais dans le même temps, Monsieur le ministre, j'ai envie de dire que vous échangez avec M. Bo Herbert sur une radio internationale, ça n'a rien d'exceptionnel. En attendant, il y a une escalade avec des enfants qui sont tués tous les jours, avec des gens qui sont enlevés. On ne peut pas parler d'avancée, Monsieur le ministre.
Échanger avec Bo Herbert, je ne suis pas obligé d'accepter parce que c'est une radio internationale. J'accepte parce que je pense que c'est ça le dialogue qui se poursuit. C'est ça le dialogue. Alors, donc, je crois que c'est parce que j'ai des Camerounais qui ont des problèmes. C'est trop facile de dire que M. Biya qui fait ceci, c'est le gouvernement camerounais qui fait cela. Il faut regarder la vérité en face. Et si nous voulons en sortir, il faut que chacun revienne de là où il n'aurait jamais dû partir. Et qu'on se dise toutes les vérités et non pas qu'on essaye d'injecter des mensonges parce qu'on est sur une radio internationale. Ce n'est pas pour cela que vous nous avez invité, monsieur Foucault.
Ma question est la suivante. Vous dites, on a engagé un dialogue. Il y a eu un dialogue, un grand débat à Yaoundé, il y a plus d'un an aujourd'hui. Or, quand on regarde, il y a plus de tueries aujourd'hui qu'il y a un an. Donc, on ne peut pas dire qu'on a avancé.
Vous ne pouvez pas dire qu'il y a plus de dialogue aujourd'hui, plus de tueries aujourd'hui qu'il y a un an. il y a peut-être plus d'atrocités qu'au départ, et peut-être que les possibilités de voir ce qui se passait ont été décuplées, parce qu'aujourd'hui, on a fait des atrocités qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a beaucoup avancé, parce qu'au plan institutionnel, on a reconnu qu'il fallait avancer avec la loi qui a été promulguée, par exemple, sur la décentralisation.
Mais elle n'a pas beaucoup évolué, monsieur le ministre, excusez-moi, mais la loi sur la décentralisation...
Puisque les élections doivent se tenir en décembre.
Les élections régionales, oui.
La création d'une chambre des chefs qui a été créée, il y a les préfets qui ont été faits et des lois ont été votées pour l'intensification et l'égalité des deux langues, parce que c'est ça aussi les problèmes qui ont été posés sur la table. Les problèmes qui ont été posés sur la table pendant le dialogue ont connu des solutions. Sans compter que, lorsque je reviens à des affirmations qui ont été dites tout à l'heure, il y a eu quand même de très gros mensonges. Il y a eu des revendications qui ont été faites. Le gouvernement a écouté, le président Biya a écouté, et des orientations ont été trouvées, des solutions ont été trouvées, mais on s'est très vite rendu compte que derrière ces revendications corporatives, il y avait un agenda caché qui était celui de la sécession.
Mais là, vous avez M. Simon Mounzou qui vous dit, lui, il était pour le fédéralisme, dont on ne peut pas dire qu'il était pour la sécession tout de suite. J'ai envie de me tourner vers M. Eli Smith. Lorsque vous entendez le ministre dire qu'il y a eu des avancées, vous qui êtes sur le terrain, qui êtes avec le cardinal Toumi au sein de Anglophone General Conference, avez-vous le sentiment que les choses ont évolué? Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui lorsque l'on regarde les atrocités?
Oui, en termes des atrocités, elle a baissé. Parce que moi, j'ai l'occasion de écumer le nord-ouest et le sud-ouest. Mm-hmm. Je peux vous rassurer, j'ai un exemple, parce qu'il faut donner des exemples. Quand je partais il y a un an à Kumbo, la route entre Kumbo et Bamenda était jonchée de cadavres. Là, on ne les voit plus. Mais ce qui se passe est qu'il y a des attaques spectaculaires, comme ce qui s'est passé avec le kidnapping à Kumbo Central ou le massacre des élèves à Kumba. Mais à autre avancé que moi, je considère, que nous considérons, est d'abord le grand dialogue. Le grand dialogue est venu au moment où il y avait des gens qui refusaient qu'il n'y avait pas de problème anglophone, mais le président de la République l'a reconnu qu'il y avait un problème anglophone. Et voilà même la raison pour laquelle nous, à la Anglophone General Conference, nous avions participé, parce que le but de la Anglophone General Conference était de réunir des anglophones pour qu'on choisisse parmi eux les leaders et qu'ils contiennent une réunion pour résoudre le problème anglophone. Et si vous regardez très bien, trois quarts de ce discours du chef de l'État était focalisé sur le problème anglophone. Et je crois que c'est un problème qui dure depuis 60 ans, et je ne crois pas qu'en 4 jours, on peut la résoudre. Moi, je pense qu'on dit en anglais, « A journey of 1,000 miles begins with the first step ». Mais il faudrait aussi qu'on sache que nous sommes les enfants d'un même père et de mères différentes. Donc, il faudra qu'on sache s'asseoir et de discuter sans préconditions pour résoudre le problème qu'il y a là.
Oui, mais lorsque vous entendez Bo Herbert dire qu'eux, ils ne se sentent pas Camerounais, que c'était de la colonisation, est-ce une opinion majoritaire ou pas?
Non, ce n'est pas une opinion majoritaire. La preuve en est que la plupart des anglophones qui sont des nationalistes ont voté en 61 pour la réunification au Cameroun. Donc, ce n'est pas une voie majoritaire pour l'indépendance. Mais je peux les comprendre. Vous savez, il y a souvent, quand vous êtes fâché, vous pouviez prendre des positions ou des propos durs. Mais ce que je demande aux autres Camerounais est que nous devions nous asseoir, discuter, pour trouver une solution à nos problèmes.
Alors, lorsqu'on entend discuter, dialogue et tout ça, on a le sentiment qu'il y a des interlocuteurs désignés. Avec qui on discute? Parce que j'ai entendu ça et là des gens dire avec qui ils parlent. Même des gens du gouvernement dire, on ne sait même pas avec qui on va parler. Monsieur le ministre, qui sont les interlocuteurs? Avec qui on parle pour pouvoir obtenir la paix?
On parle avec les Camerounais. On parle avec tous les Camerounais de bonne volonté. Et c'est ça que le président d'hier fait. Il a invité à ses assises les Camerounais qui pensaient tous qu'il y avait un problème. Et je crois que parmi les Camerounais invités, vous en avez invité à ce débat cet après-midi. Ils étaient tous invités. Il y en a qui ont acté le fait qu'ils ne sont pas sûrs que s'ils entrent au Cameroun, on va les arrêter. Alors, il faut aller. Il y en a qui ont même proposé que les Camerounais aient été rencontrés dans des pays étrangers, alors qu'on peut se rencontrer en toute liberté. Et je voudrais vous signaler que lorsqu'il a fallu que le débat démarre, l'une des premières choses que les participants à ce grand dialogue avaient demandé d'entrée de jeu, c'était la libération de certaines personnes qui avaient été arrêtées lors de certaines manifestations. Elles ont été libérées, il y en avait plus de 300. Et le président de la République a continué.
Monsieur Boerbert, vous avez participé à ce dialogue?
Non, je n'ai pas participé à ce dialogue. C'est un dialogue de sous. C'est un dialogue entre le RDPC qui est conduit dans un pays converti en prison où les gens n'ont pas de liberté, les gens ne peuvent pas s'exprimer. Et il est organisé et il a été organisé pour nier le problème. Nier le problème anglophone, nier le problème de l'Amazonie. Je dis bien, le Cameroun est à l'image de l'Union soviétique, c'est une faillite aujourd'hui. Il faut faire le constat et regarder vers l'avenir. L'avenir, c'est l'état de l'Amazonie, état de facto.
Mais en même temps, on a envie de vous dire, Monsieur Boerbert, est-ce que c'est pas un fantasme? Est-ce que vous imaginez la création d'un État à côté qui serait l'Ambazonie et qui s'appuie sur quoi exactement?
Non, on ne parle pas de fantasme. On a obtenu la même résolution que le Cameroun pour obtenir notre indépendance. Il ne s'agit pas du fantasme. Il s'agit de faire reconnaître par le droit international ce qui revient de droit au peuple du Southern Cameroun. Le Cameroun se comporte, c'est au pouvoir que j'appelle les monstres au pouvoir à Yaoundé, il se comporte d'une manière où le Nigeria ne s'est pas comporté en 1953, lorsque nos parents ont décidé de quitter le Nigeria, l'union avec le Nigeria. Nous avons cette liberté. Si on dit aujourd'hui on est figé en l'année 60, au fait que notre peuple a voté pour rejoindre le Cameroun, nous disons aujourd'hui, nous votons pour quitter et nous renonçons à la nationalité camerounaise. Et leur droit, leur propre droit dit que si nous renonçons, nous n'avons plus leur nationalité. Alors qu'ils nous laissent, ils nous foutent la paix.
Monsieur Mounzou, je vous entendais vous exprimer dans le fond.
Oui, effectivement, j'avais envie d'intervenir. Le ministre Ouna, un frère que je salue en passant, a sorti deux mots. Je voudrais attenter mes propos sur ces deux mots. Il a dit, il nous invite à regarder la vérité en face, n'est-ce pas? Et il dit aussi de ne pas injecter le mensonge dans ce débat, n'est-ce pas? Si on doit donc regarder la vérité en face, la vérité est que le peuple camerounais est pris en otage entre deux extrémistes, deux côtés extrêmes. D'un côté, nous avons les séparatistes, représentés sur ce plateau par mon frère, M. Boerbert. Et de l'autre côté, nous avons, de l'autre extrême, nous avons le gouvernement, si j'ose le dire, qui jusqu'ici se contente de prendre les mesures qui ne sont pas à la hauteur de l'intensité, la nature du problème, qui se livre à le saupoudrage. Et nous cite les choses qui ne sont pas destinées à résoudre ce problème.
Alors, comme on arrive à la fin de la première partie de ce magazine, vous allez développer ça dans la seconde partie, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très vite, juste après une nouvelle édition du journal sur RFI.
Le débat africain. Alain Foucault.
Comment la crise qui a débuté en 2016 avec un appel au boycott des écoles et les revendications corporatistes des avocats et enseignants des régions anglophones s'est-elle transformée en une guerre tragique avec plus de 3000 morts, dont des élèves sauvagement assassinés dans leur classe, des enseignants décapités, des femmes, enfants et personnalités enlevées, des maisons brûlées et les villages rasés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on en arrive à une telle barbarie? Comment mettre fin à cette guerre qui a mis plus de 500 000 personnes sur les routes? Pourquoi est-elle autant ignorée par la presse et la communauté internationale? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à la guerre dans la partie anglophone du Cameroun. La guerre du Nouzo, comme on l'a baptisé, avec son cortège de femmes et d'enfants massacrés ou enlevés. Plusieurs invités au téléphone pour en parler. D'abord, M. Grégoire Owona, ministre du Travail et de la Sécurité sociale, mais également secrétaire général adjoint du RDPC, le parti au pouvoir. Il est en direct de Yaoundé, la capitale camerounaise. Second invité de ce plateau, Bo Herbert, le porte-parole du mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroons, MORISC. Bo Herbert, ancien journaliste, est exilé aux États-Unis d'Amérique. Il est en direct de Washington, D.C. Notre troisième invité est M. Eli Smith, journaliste lui aussi, mais il est également le secrétaire général de la Anglophone General Conference, une initiative interreligieuse rassemblant les leaders anglophones, presbytériens, musulmans, avec imams de Boya et de Bamenda, et catholiques, dont le cardinal Toumi, qui a été brièvement enlevé il y a quelques semaines par les sécessionnistes. Cette initiative se propose en fait de donner la parole aux différentes sensibilités anglophones et de regrouper les principales revendications. Dr Simon Munzi, notre quatrième invité, en direct lui aussi de la capitale américaine, est l'ancien sous-secrétaire général des Nations Unies et représentant spécial adjoint du secrétaire général en Côte d'Ivoire. Il est l'un des promoteurs de la Anglophone General Conference, acteur de la société civile. Il défend depuis une trentaine d'années le retour au fédéralisme au Cameroun. Alors, dans la première partie, nous avons terminé en évoquant les vérités qu'il faut se dire en face, pour reprendre le terme du ministre Grégoire Owona. C'est quoi ces vérités, Dr Simon Munzu?
Oui, la première vérité, et ça les séparatistes doivent le reconnaître, c'est que contrairement à ce qu'ils prétendent, le Southern Cameroun a accédé à l'indépendance le 1er octobre 1971 en se rattachant à la République du Cameroun. C'est le mot qui a été utilisé pour le plébiscite du 11 février 1961. Mm-hmm. Autrement dit, depuis cette date-là, notre territoire Southern Cameroun et la République du Cameroun constituent un seul pays. Seulement qu'il était entendu que cette union allait se faire sur la base d'une fédération, pour tenir compte du fait que nous avions deux héritages différents. Mm-hmm. Donc, du côté des séparatistes, il faut qu'ils cessent de nous dire que nous ne sommes pas un seul pays. Nous sommes un seul pays depuis cette date-là. Mais du côté du gouvernement, il faut qu'on reconnaisse que cette union avait été consacrée sur la base qu'on serait une fédération. Et ça a été fait du 1er octobre jusqu'en juin-juillet 1972.
72, oui.
C'est ça. Donc, pourquoi ça a été abandonné? Pourquoi est-ce qu'on a abandonné la forme fédérale alors que nos héritages continuent? Les différences que nous avons qui ont justifié cette formule continuent? C'est ça la question. Depuis lors, le régime de Yaoundé se comporte effectivement, en ce qui concerne le territoire du Southern Cameroun, comme si c'était une deuxième colonisation, ou même une troisième après la colonisation allemande et la colonisation britannique, une troisième colonisation. Ça aussi, c'est un fait. Quand on analyse les preuves, ce n'est pas des mensonges. Or, face à tout cela, on avait souhaité qu'il y ait effectivement un dialogue sur le problème anglophone. Mais le grand dialogue auquel j'ai assisté, parce que moi je tiens à être présent où partout il y a possibilité de dialoguer, a été une grande déception, je voudrais le dire. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'être un dialogue, ça a pris plus la forme d'une consultation organisée par le gouvernement, qui a choisi le thème, qui a choisi le participant, qui a choisi de faire ce que voulait faire des conclusions, etc. Ce n'était pas un véritable dialogue, il faut le reconnaître, il faut se dire la vérité. Autre vérité, c'est que les conclusions de ce dialogue, contrairement à ce que j'entends sur ce plateau, on ne les met pas en application.
Mais M. Eli Smith tout à l'heure disait que certaines résolutions sont en cours et qu'il y a eu des avancées, il y a eu moins de violence dans les régions anglophones.
J'ai entendu M. Eli Smith, et c'est là que je dis aussi qu'il ne faut pas se cacher la vérité. La violence continue, les écoles reprennent très très timidement, la population reprennent leur vie en premier, très 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 timidement. Alors pourquoi ne pas accélérer la recherche des solutions?
Ça serait quoi la solution en un mot, avant que je ne passe la parole à M. Smith pour qu'il vous réponde? Ça serait quoi la solution, oui, d'après vous?
La solution, d'après moi, c'est de reconnaître d'ailleurs que désormais, malheureusement désormais, il y a trois crises dans une seule crise, trois crises au Cameroun. La première crise, depuis que les séparatistes et l'État du Cameroun se font la guerre, nous avons une crise de l'intégrité territoriale du Cameroun. Mmh. Autrement dit, les séparatistes veulent casser le pays. Le gouvernement dit, pas question, le Cameroun reste un et indivisible, et les deux se font la guerre.
Donc aujourd'hui, vous voulez qu'on aille vers le fédéralisme, c'est bien ça, pour résumer.
Mais voilà, je dis donc que pour cette crise de intégrité territoriale du Cameroun, ça c'est une crise qui oppose les séparatistes et l'État du Cameroun, le gouvernement. Mais il y a une deuxième crise, c'est la crise de l'assimilation. L'assimilation de Southern Cameroun par la classe gouvernante de Yaoundé.
Avant qu'on entre dans cette seconde crise que vous voulez évoquer, je voudrais la réponse du ministre Grégoire Ouna à ce que vous avez dit. Les résolutions n'ont pas été mises en place et on veut aller vers le fédéralisme. Qu'est-ce qui rend ça si difficile?
Dites que M. Mounjou veut aller vers le fédéralisme et c'est son droit. Je voudrais d'abord qu'on se dise, lorsqu'il m'a pointé, à interpeller sur les vérités en face, c'est parce que je pense qu'il faut qu'on accepte de croire que on ne peut pas réussir sans humilité, parce qu'on ne peut pas se mettre à asséner ce qu'on pense être des vérités. Nous avons besoin d'un peu d'humilité dans le dialogue qui va se faire et davantage de concertation.
Mais il pense que vous êtes dans cette posture, vous aussi, hein, qu'il n'y a pas d'humilité et qu'il n'y a pas de concertation, que vous avez consulté, mais vous n'avez pas dialogué.
Dans une posture politique où le président Biya a tendu la main à tous les Camerounais. C'est une posture d'humilité, une posture de dialogue, une posture qui permet de mettre les problèmes sur la table et de trouver des solutions.
Mais il y a eu des résolutions. Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces résolutions, dans ce dialogue?
Mais les résolutions sont en train d'être mises en place. Je vous ai parlé de la décentralisation qui est en train d'être mise en place. Je vous ai parlé de la Chambre des chefs qui est en train de se mettre en place. Je vous ai parlé de la promotion des langues anglaises et françaises qui est en train de se mettre en place.
Vous conviendrez que c'est quand même un peu long. Ça fait un an, plus d'un an que ce dialogue s'est tenu et c'est seulement maintenant qu'on commence à penser à aller au vote. Au-delà de cela, il y a aussi la question de la confiance qui est souvent revenue. On sait qu'il y a eu une garbou où il y a eu des forces de sécurité de camerounaises qui ont massacré des personnes, dont du coup on entendait M. Mbo Herbert tout à l'heure dire les crimes qui ont été perpétrés ces derniers temps, c'est pas les sécessionnistes. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le ministre?
Ben, je dis que c'est, pour moi, il est clair que ce sont des sécessionnistes, ce sont des terroristes, ce sont des gens qui sont là pour semer la terreur. Et ça, ce n'est pas ça le défi que nous lance le Cameroun aujourd'hui. Le défi que nous lance le Cameroun, c'est d'accepter à un moment donné de notre histoire, de nous remettre en question. Et lorsque le président appelle au dialogue, ça veut dire que nous remettons en question. Très humblement, on pose des problèmes sur la table, on en débat et on voit les solutions. Et là, on a pris un certain nombre de résolutions pendant ce grand dialogue qui sont en train de se mettre en place et qui sont sorties pas de la bouche du gouvernement, pas de la bouche du RDPC, mais des débats qui ont eu lieu pendant ce dialogue.
Monsieur Eli Smith, vous êtes d'accord avec ça?
Je crois que il y a des progrès qui sont en train d'être faits, mais c'est tardif, c'est lent. Mais je voudrais prendre mon expérience comme journaliste. Vous savez, en tant qu'Africain aussi, il y a beaucoup de manières de demander pardon. Et je pense que le chef de l'État l'a reconnu à Paris en reconnaissant que pendant 60 ans, ils ont voulu assimiler les anglophones. Donc, ça veut dire que c'est reconnaître qu'ils ont commis une erreur. Deuxièmement, Jérémy a dit que le dialogue national n'était pas vraiment une perte de temps. Pour moi, le dialogue national était une victoire parce que avant le dialogue national, nous avions des ministres qui niaient sur les plateaux de télévision qu'il n'y avait pas de problème. Mais le président l'a reconnu. Mais ce que je voudrais dire à mon frère Bo Herbert est qu'il est un journaliste, il faut qu'il apprenne que, eux tous, que quand les absents ont toujours tort. Il fallait qu'ils prennent l'exemple d'un certain Bernard Kolela pour venir au dialogue. C'est ce que Dr Mounzou a fait. Et quand vous venez au dialogue, vous avez une autorité de dire des choses. Mais par contre, ce que eux ils ont fait est que le 23, ils se sont réunis à Montreux, convoqués par des Suisses, pour refuser de ne pas venir au dialogue. Et je crois que c'est une erreur monumentale qu'ils ont fait. Et nous, en tant qu'Africains, ce que nous proposons est que nous devons nous asseoir et discuter.
Alors, ceux qui vous entendent et qui sont dans le nozo, dans les régions anglophones, on se disent, bon, c'est bien, ils ont bien parlé, mais comment on fait pour mettre fin aux violences? Comment on arrête de tuer des enfants? Comment on arrête de tuer des femmes et de massacrer des professeurs? Beau Herbert.
Tout à l'heure, M. Eli Smith ridiculisait le fait que nous sommes allés en Suisse pour répondre à des appels par la communauté internationale pour des négociations. Parce que M. Smith est complètement d'accord avec le régime de M. Biya par rapport à la poursuite de cette tuerie. Il disait tout à l'heure qu'il constate qu'il n'y en a plus, mais c'est exactement le contraire. Et je vais poursuivre, parce que pour M. Mounzou, tout à l'heure, il disait qu'il parlait de la vérité, il parlait d'un État unifié, d'un seul pays. L'Union soviétique, ce fut un seul pays aussi. Hein. Il y a 15 États qui en sont sortis.
Monsieur Boerbert, je ne veux pas vous interrompre sur votre développement, mais je sais que ce n'est pas à travers une émission de radio que l'on va arrêter la guerre dans le nozo, mais commençons au moins à discuter. Vous avez de la famille dans ces régions-là, il y a des gens qui sont massacrés. Comment on fait pour qu'on arrête? Comment on parle à ceux qui font ces crimes-là pour qu'ils arrêtent de tuer des enfants et des femmes dans les salles de classe en plus?
Il faut demander au régime de Monsieur Biya, qui a lancé cette guerre, qui a obtenu, à la veille de la déclaration de la guerre, a obtenu une audience avec le président français Emmanuel Macron à Abidjan. Il faut leur demander d'arrêter les conneries qu'ils font dans la partie anglophone du Cameroun, qu'ils arrêtent les massacres des Amazoniennes, qu'ils reconnaissent les droits des Amazoniennes et qu'ils cessent de penser que c'est par la force militaire qu'ils vont s'imposer. On ne va pas créer l'union par la force. Nous la rejetons.
Bien. Vous rejetez l'union, mais comment on fait pour que ça ne se passe pas par la violence, pour que ça ne se passe pas par le massacre des gens? Est-ce qu'il y a des gens à qui vous pouvez parler pour dire, bon, asseyons-nous autour d'une table ou négocions différemment, mais arrêtons de tuer des enfants?
Si les régimes de Biya retirent ses troupes de l'Amazonie, il n'y aura pas un seul mort en Amazonie. Les gens sont tués par les billes. Les gens sont tués par le régime de M. Biya. Les massacres dans les écoles, c'est par le régime de M. Biya. On les met au défi de le prouver. C'est pas en sautant les primés, en faisant des communiqués les primés pour annoncer qu'il s'agit des sécessionnistes qui l'ont fait, que ça constitue la vérité. La vérité, on l'établit par une enquête. Et le régime de M. Biya n'établit aucune enquête. Et ils ont été retrouvés complètement nus lorsqu'ils ont essayé de faire ces mêmes mensonges passés dans le cadre d'un Gabou. On a découvert qu'il s'agissait bel et bien du régime qui massacrait les gens, comme ils exécutent les gens au nord.
Alors, je vais poser la même question au ministre Grégoire Owona. On sait que les guerres, les guérillas, ça se gagne difficilement et que là, on a l'air de s'installer dans le temps. Que faire dans l'immédiat pour arrêter cela?
Non, d'abord, je voudrais dire qu'il est important de rappeler que l'armée camerounaise est une armée très professionnelle et le BIR, c'est des gens bien entraînés, très professionnels. Ils n'ont pas été tués, les populations. Et lorsqu'il y a même eu...
Mais il y a une gabou, monsieur le ministre.
Il y a eu des bavures. Attendez. Lorsqu'il y a même eu des bavures, des sanctions ont été prises et ont même été rendues publiques. Donc, je crois que la propension à la violence, elle s'est encore vue dans votre émission, parce que les mots utilisés par monsieur Boerbert, c'est quoi? C'est les monstres, c'est les prisons, c'est les conneries, c'est foutre le camp, c'est des citations. Non, je crois que ce n'est pas ça aujourd'hui. La propension à l'extrémisme n'est pas la voie de la sagesse. Aujourd'hui, il y a eu des problèmes. Certains datent d'il y a 60 ans, peut-être même plus, peut-être même moins. On a commencé à prendre des solutions. Donc, le défi...
Ça devient urgent, monsieur le ministre. Ça devient urgent. Donc, qu'est-ce qu'on fait rapidement pour que les choses se calment?
Le cessez-le-feu ne peut pas être conditionnel. Il faut que ces sécessionnistes arrêtent de tuer. L'armée est là pour protéger les populations. Ça doit être clair et bien compris.
Mais alors, lorsqu'on a préparé cette émission, et là j'allais oublier cette question qui m'a été posée, certains ont dit, oui, mais dans le même temps, quand on dit qu'on nous protège, on tue des enfants chez nous, mais on n'a pas entendu le chef de l'État parler une seule fois de nous. On a le sentiment qu'on est oublié et qu'on nous a abandonnés à ces sécessionnistes-là.
Le chef de l'État a pris des actes, il a envoyé des émissaires, donc ne pouvez pas dire qu'on ne l'a pas entendu. Vous ne pouvez pas dire qu'on ne l'a pas entendu.
Moi, je l'ai pas entendu.
Le Premier ministre est allé sur le terrain, pas une fois, mais plusieurs fois.
Le Premier ministre.
Le chef de l'État a lui-même s'est adressé à la nation. Le chef de l'État s'est adressé par les réseaux sociaux. Donc vous ne pouvez pas prétendre, Monsieur Foucault, je vous en prie.
Ce n'est pas moi qui prétends, tout simplement. Je pense que vous avez lu sur les réseaux sociaux. C'est les questions qui reviennent souvent. Pourquoi nous sommes abandonnés? Donc je vous la pose et vous dites, ok, le président, il a parlé ou il a envoyé son Premier ministre dans tact.
Ils ne sont pas du tout abandonnés. Pas du tout. Les preuves que je vous cite là sont là pour dire que le chef d'État n'a abandonné aucun point du pays et le cessez-le-feu a été là. Les centres ont été créés pour que les gens sortent de la brousse. Il n'est pas conditionnel le cessez-le-feu. Il doit être immédiat.
Bien. Monsieur Simon Mounzou, pour terminer, vous qui êtes fédéraliste, comment faire pour ramener ceux qui représentent la majorité dans cette zone anglophone à mettre un terme à cette violence? Comment ils peuvent contribuer? Qu'est-ce qu'il faut faire là tout de suite?
Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est de permettre aux populations de Southern Cameroun, si vous voulez, de l'anglophone, de se réunir entre eux, comme nous avions souhaité. Parce qu'il faut que toutes les sensibilités au sein de la communauté anglophone se regroupent et discutent pour sortir une proposition qui ira dans le sens de contribuer à mettre un terme à cette crise.
Mais lorsqu'on regarde et que ces gens font des démonstrations de force, enlèvent par exemple John Frundi, enlèvent le cardinal Toumi, qui sont des personnalités de, on va dire, de haut niveau, on se dit, est-ce qu'ils ne montrent pas qu'ils sont les plus forts finalement?
Oui, en fait, est-ce qu'ils sont véritablement les plus forts? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut faire une distinction entre ce qui est devenu la crise sur l'intégrité de l'intelligence du Cameroun et la question fondamentale qui est celle de l'assimilation de population du Southern Cameroun par le régime gouvernant de Yaoundé. Tant qu'on ne fait pas de distinction désormais entre ces deux situations, on ne pourra pas trouver une solution, parce qu'on ne peut pas trouver une solution qui, où on se limite seulement dans les discussions entre le séparatisme d'un côté et le gouvernement de l'autre. C'est pour cela que personnellement, contrairement à ce que j'entends, on est déçu par le outcome du grand dialogue. J'ai participé à ce grand dialogue. J'ai honoré l'invitation d'y assister. J'ai assisté. J'ai même eu l'honneur de livrer l'une des allocutions à l'ouverture. J'ai présidé l'une des commissions, la commission. Alors,
malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, mais c'est promis, monsieur Simon Mounzou, nous reparlerons de cette guerre dans le Nozo, un conflit qui vient un peu écorner l'image du Cameroun, si fier autrefois d'afficher partout dans le monde son bilinguisme, une singularité qui devient l'un des éléments de sa descente aux enfers. On espère que la raison finira par avoir le dessus dans les deux camps pour que la paix revienne dans ces deux régions anglophones où les enfants sont privés d'école, où les enseignants sont devenus des cibles depuis 2016. Lorsqu'on se souvient extraordinaire mobilisation suscitée à juste titre par l'assassinat en France de Samuel Paty, on se dit que les élèves et les professeurs du Nozo n'ont vraiment pas de chance. Merci au ministre Grégoire Ouna, le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, à Bo Herbert, le porte-parole du mouvement pour la restauration de l'indépendance du Southern Cameroons, à Ellie Smith, le secrétaire général de la Anglophone General Conference, et au docteur Simon Mounzou, l'un des promoteurs de la Anglophone General Conference. Merci d'avoir accepté de venir en débattre sur RFI. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Appelez-nous.